Money, money, make people happy. Money, money, make people happy. Money, money, make people horny.
Y'a pas de délire, y'a pas la volonté de se payer une star, quitte à perdre de l'argent. Donc tout ça, c'est des affaires. C'est des affaires très saines.
Voilà, alors là, cette petite voix que vous venez d'entendre, c'est Raphaël Sorin, donc éditeur chez Fayard. Donc on l'entendra un peu plus longtemps, je vous le rassure tout à l'heure, mais disons que le thème de son exposé sur Fayard et l'édition, c'est un peu ça, c'est l'argent au cœur du système. Mais d'abord, on va peut-être discuter avec Sylvie.
Donc Sylvie, tu es Sylvie Labat, donc tu es libraire à la librairie Folies d'encre Saint-Denis. Et tu as une conception de la librairie un petit peu différente déjà de celle des FNAC ou des Virgin. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu ?
Et quand tu dis Virgin, ça fait un peu mal en ce moment.
Oui, je suppose. Ouais.
Non, c'est parce qu'on a Virgin qui va s'installer à Saint-Denis, juste à côté de la librairie, et on n'est pas sûr de tenir. Et Virgin, bah, pour faire le lien avec Fayard, c'est le même propriétaire. Voilà, ils ont le beurre, l'argent du beurre, et le cul de la fermière pendant qu'on y est, quand ils peuvent. Mais je ne sais pas, on peut peut-être parler effectivement de la concentration d'édition. La concentration, c'est quand un propriétaire de plein de choses est propriétaire aussi de plein d'éditions. Voilà, alors qu'est-ce qui c'est une édition ? Ben, c'est peut-être un lieu où on peut. Il y a une possibilité de liberté d'expression, de pensée libre, et c'est de moins en moins le cas, parce qu'à partir du moment où on appartient à quelqu'un, on est un peu moins libre, libre d'être, libre de penser. Et depuis les années 80, bah, ça s'est un peu multiplié. C'est-à-dire que je dirais que quasi 80% de l'édition française appartient à deux structures. Hein. Lagardère d'un côté et aujourd'hui Célière. Voilà. La Martinière qui vient de récupérer aussi le groupe Seuil. La Martinière a priori a racheté ça, non pas avec de l'argent, ce qu'il n'en a pas, mais avec les fonds de pension américains. Et voilà. Et puis quand La Martinière dit qu'un livre doit être rentable... En gros, il faut le traduire par les trois quarts de des sciences humaines, donc de la réflexion ou de la pensée ou des sciences humaines. Oui, c'est ça, c'est la philosophie, c'est tout ce qu'on veut. Bah, ça risque de plus être publié puisque ce n'est pas rentable. Voilà, la pensée n'est pas rentable. Enfin, en tout cas, financièrement parlant, économiquement parlant. Voilà, donc on se fait beaucoup de soucis. Et on se fait beaucoup de soucis aussi parce que beaucoup de personnes de la contestation, là, je repars sur la perche qu'a tendue Pierre sur Noam Chomsky, quoique je ne sois pas sûre qu'il soit au courant des droits rachetés à l'étranger, mais j'aimerais bien lui faire un petit mail pour lui expliquer. Mais pour Alimi, par contre, ou autre de la contestation, se faire éditer par Fayard, c'est assez surprenant. Fayard appartient à Lagardère et, par exemple, Serge Alimi a quand même pas mal dénoncé le groupe Lagardère à une époque sur la notion de médiatisation. Voilà.
Oui, c'est vrai que l'édition là, de cette dernière année, comme tu viens de le dire, avec le Seuil racheté par la Martinière, Célière qui a racheté aussi une partie d'Editis et Lagardère qui continue de se déployer, est-ce qu'au bout de cette année, toi déjà en tant que libraire, tu sens des conséquences de ces rachats et de cette concentration
Ça se multiplie sur la relation déjà avec les personnes avec qui on avait affaire, les éditeurs eux-mêmes, les représentants d'éditeurs sont de plus en plus angoissés et stressés. Il faut faire du chiffre, il faut faire de la rentabilité. Et puis à un moment où il y a peut-être 2 ans, on discutait tranquillement, on disait non, celui-là, j'en veux pas de livre, parce qu'on travaille livre par livre. Un livre est travaillé à la librairie ou il n'est pas travaillé. Voilà. Et puis moi, je ne suis absolument pas pour les piles. Donc moi, si c'est une unité, c'est super. Et encore, ils ont de la chance. Alors quand c'est 3, c'est vraiment parce que j'ai un coup de cœur. C'est très rare. Et du coup, là, je me bats avec des représentants, avec des gens que j'aime beaucoup, hein, parce qu'il faut absolument que j'en prenne plus, parce qu'ils ont des chiffres à faire. Voilà. Donc déjà, ça, c'est le rapport direct. Donc ça devient très désagréable. Alors après, nous, on dit non. De toute façon, c'est moi qui paye la facture. Donc c'est moi qui décide. Et puis, on a les offices, qu'on appelle les offices forcés, qui se sont multipliés dernièrement. C'est-à-dire que l'éditeur envoie, enfin l'éditeur, le distributeur, enfin on ne sait pas qui, puisque personne ne sait prendre, a priori, ne prend les décisions, c'est des machines. Voilà, on reçoit en office forcé ce qu'on appelle des livres qu'on n'a jamais commandés. Et on nous dit, mais c'est le livre, le best-seller de l'année. Et on dit, voilà, c'est un peu... Il y a un souci parce qu'on ne l'a pas commandé. Non seulement on ne l'a pas commandé, c'est qu'on le paye. Donc moi, maintenant, je fais des factures aux éditeurs directement. C'est-à-dire que je leur refacture leur bouquin. Et plus les frais de transport, plus le dédommagement moral. J'ai jamais encore été remboursée, mais et il m'arrive quelquefois de garder les livres sans les acheter aussi, par principe, pour montrer ce livre nous a été donné en fond d'office forcé. Ne l'achetez pas.
Et par exemple, sur une rentrée comme celle-ci, là, comme septembre, tu vas réceptionner combien de bouquins à peu près, et quelle est la proportion en fait entre les grands éditeurs qui t'envoient des offices qui sont pas convenus, qui sont forcés, et les petites maisons d'édition?
Ben, en fait, si tu veux, comme on travaille vraiment titre par titre, on a déjà travaillé la rentrée, on a dû la travailler en mai et juin. Et puis, du coup, les 600 titres qui sortent, nous, on ne les reçoit pas parce que ça a aucun sens. Hein. Ça n'a aucun sens de sortir tout entre septembre et novembre, c'est ce qui se passe. Hein, le gros de la rente, enfin des livres dans l'année, 40 000 titres à peu près, je crois que c'est dépassé maintenant. Donc nous, on fait des choix. Donc j'estime qu'on a à les respecter. Donc comme je suis un peu chieuse et puis pas très aimable toujours, a priori pour le moment, bon, les offices forcés, c'est pour tout le monde. C'est très étrange, c'est tout ce qui est facho. Hein. De toute façon, ça ne va pas être la littérature pointue. Ça ne sera jamais de la poésie, les offices forcés. Ce sera toujours du genre Houellebecq ou du genre, je ne sais pas moi, si on a eu Oriana Fallaci par exemple aussi, ça a été le genre. Voilà, donc on a écrit Défectueux des idées. Et puis, bon, je ne raconterai pas ce que j'ai fait parce que ça, c'est de l'anecdote, mais je suis un peu énervée. Et ce n'était pas très agréable pour l'éditeur. Voilà, c'est. Mais le souci pour moi, c'est qu'on a été trois à s'énerver pour Oriana Fallaci, ce qui n'est pas beaucoup. Voilà, et que du coup, avec cette histoire de concentration, y compris ceux qui écrivent, donc qui auraient le pouvoir de dire non et de dire je veux être édité chez un petit éditeur indépendant, je fais confiance au lecteur pour aller trouver le livre, aller le chercher s'il faut et emmerder le libraire pour qu'il le commande chez un petit éditeur, eh ben non. Donc on fait comme si tout, rien ne s'était passé. Et moi, ça me touche beaucoup et ça me perturbe beaucoup, là. Y compris du côté de ma profession, hein, que je ne défendrai pas tout le temps, et très peu d'ailleurs.
On va peut-être écouter notre ennemi Raphaël Sorin pour justement, il parle de ça aussi, des auteurs aussi qui ont de plus en plus qui regardent de plus en plus les contrats, qui ont des agents, donc ça c'est quelque chose qui commence à se développer, donc j'espère qu'on aura le temps d'en parler un petit peu tout à l'heure, parce que c'est un glissement sûrement assez dangereux. Donc Fayard fait la une donc à cette rentrée avec Houellebecq. Donc un gros contrat a été offert à Houellebecq, on parle d'un million, million d'euros pour son transfert, puisque c'est le mot utilisé, un transfert comme au foot, d'ailleurs il parlera de foot, comme au foot, donc pour passer de Flammarion à Fayard. Pourquoi Fayard aussi? Donc un million évidemment ça a dû l'intéresser, mais aussi parce que Fayard donc, appartient à Lagardère, et Lagardère a une société de production de cinéma, et Houellebecq a décidé de faire du cinéma. Donc dans son contrat signé avec Fayard, il y a la sortie de ce livre, La possibilité du Nil, et également un film qui va être tourné dans les jours qui viennent. Donc voilà un exemple aussi de la concentration. Et ensuite, on parlera avec Raphaël Sorin de cette concentration et de l'évolution, lui, qu'il a vu dans son métier. Voilà, donc on part tout de suite chez Fayard. J'ai eu quelques difficultés à trouver le bureau. C'est grand chez Fayard.
Je cherche le bureau de Raphaël Sorin.
Et là, à droite, à gauche.
Bonjour.
Entrez. Ce qui est intéressant, je crois, dans une rentrée littéraire, c'est de retrouver des gens qu'on a déjà publiés. Ça prouve d'abord qu'on suit leur œuvre, et puis ça prouve aussi qu'ils ont confiance dans la maison d'édition. Là, je me suis amusé à retrouver les programmes de trois années de Flammarion, notamment la dernière année où j'étais directeur du département littéraire. Alors ce qui me frappe, c'est de voir que cette année-là, c'était en 2002, il y avait un certain nombre d'auteurs que j'avais fait venir et que plus de la moitié sont partis ailleurs. Donc ça, c'est plutôt mauvais signe. Je crois qu'il faut à la fois suivre les auteurs, il faut se les attacher. Et c'est un peu le résultat de tout ça, c'est cette rentrée Fayard où il y a des gens qui ont déjà publié pas mal de livres dans la maison. Et ça, c'est plutôt bon signe. Ça prouve qu'il y a une vitalité à la fois dans la maison et qu'il y a aussi une sorte de renouvellement à l'intérieur des gens qui sont déjà publiés.
Le poète est celui qui se recouvre d'huile.
Alors, s'attacher un auteur sur du long terme, ça semble quand même être quelque chose qui est de plus en plus difficile. Si on en croit les transferts, je ne sais pas, apparemment on emploie ce mot maintenant dans l'édition, les transferts, alors notamment le plus célèbre d'entre eux, c'est celui de Michel Houellebecq, qui est passé donc de Flammarion à Fayard. Comment vous expliquez cette sorte de surenchère sur les auteurs ?
Ben, la surenchère vient de la rareté, comme vous savez, c'est comme pour le foot. Hein. Si vous voulez avoir Zidane ou Thuram ou Makelele, ben, il faut mettre les moyens. Pour les écrivains, c'est un peu ça. Il y a un certain nombre d'écrivains qu'on dit bankable, pour reprendre cette horrible expression. Et Houellebecq, évidemment, vu ses succès passés, vu son talent, vu le fait qu'il est aussi traduit dans une trentaine de pays, était extrêmement convoité. S'il a quitté Flammarion, il doit avoir ses raisons. Il y a le fait que Fayard proposait un très bon contrat, à la fois de littérature et de cinéma. Et il a réfléchi, son agent aussi, il a donc essayé de changer de maison d'édition. Et puis il y avait aussi entre nous, ça va faire 10 ans qu'on travaille, il y avait une sorte de fidélité, d'habitude de travailler ensemble, de satisfaction mutuelle. Donc voilà les raisons qui font que Houellebecq est venu ici. Les auteurs, au bout d'un certain moment d'ailleurs... Quand ils ont publié pas mal de livres dans une maison, souvent ils se fatiguent. Il faut lutter contre cette accoutumance qui engendre l'ennui. Et c'est un des problèmes des éditeurs, c'est comment garder un auteur. Bah, c'est soit lui proposer des choses intéressantes, bien gérer son œuvre, s'en occuper, fait créer non pas des liens d'amitié, parce que je pense que ça ne doit pas intervenir dans des relations d'auteur et d'éditeur. Évidemment, si ça intervient, c'est très bien. Mais il faut aussi se placer de manière objective. Et est-ce que la relation est bonne ? C'est comme dans un couple. Est-ce qu'il y a satisfaction mutuelle ? Ben, s'il y a satisfaction mutuelle, on continue. Sinon, on se sépare.
Tout de même, les lecteurs peuvent aussi s'interroger sur ces grands coups qui peuvent être des coups marketing. Est-ce qu'on peut dire ça ?
Moi, je crois que les lecteurs se fichent pas mal de tout ça. Ça intéresse surtout les journalistes qui n'ont pas grand-chose à faire et qui, selon moi, feraient mieux de lire les livres attentivement et assidûment. Non, le public s'en fiche un peu. C'est quand même rien. Je vous parlais du foot tout à l'heure, où, quand on voit les salaires des acteurs, quand on est très en deçà dans l'édition. Non, le Houellebecq, maintenant, depuis quelques années, quoi qu'il fasse, ça fait événement. Donc, il était évident que le changement d'éditeur allait faire événement. Et qu'on a avancé des sommes qui paraissent considérables, mais quand on regarde de près, elles ne sont pas du tout absurdes. Moi, quand je l'ai publié chez Flammarion, je lui avais donné un gros avaloir pour son dernier livre, et on avait calculé que c'était finalement très raisonnable, et l'avaloir qu'il a eu là, c'est tout à fait raisonnable aussi. Il n'y a pas de délire, hein. Il n'y a pas la volonté de se payer une star, quitte à perdre de l'argent. Donc tout ça, c'est des affaires, quoi. C'est des affaires très saines.
Et vous, justement, qui avez un long parcours dans l'édition, vous avez commencé au seuil, me semble-t-il, à la fin des années 60 à aujourd'hui. Est-ce que quel regard vous portez sur cette évolution et du coup sur votre travail d'éditeur ? Comment s'est-il transformé en une trentaine d'années ?
Il y a des choses qui ne changent pas, c'est la lecture, le rapport à la lecture et le commentaire qu'on peut faire à l'auteur. Ce qui change, c'est les conditions de lancement, les conditions économiques. Ce qui intervient, qui est très nouveau, c'est que les auteurs eux-mêmes s'intéressent de plus en plus à cet aspect-là, s'y connaissent de plus en plus. Avant, ici, quasiment les contrats, les yeux fermés, ils acceptaient donc des contrats. Léonin, qui les liait à des éditeurs pour 5-6 livres, maintenant c'est tout à fait exclu. Il y a aussi l'apparition de quelques agents. Bon, c'est encore très timide en France, mais ça change la donne. C'est-à-dire qu'il y a des vraies discussions sur les contrats, sur les pourcentages, sur les avaloirs, sur la mise en place. Tout ça, c'est un langage que les écrivains n'employaient pas avant, ou très rarement. Non pas ils s'intéressaient à l'argent. Quand on voit les lettres de Céline à Gaston Gallimard, il est tout en question d'argent, mais d'une manière, j'allais dire, primitive. Hein, on est au stade de la cueillette. Maintenant, c'est plus subtil. Non, ce qui a changé, je crois, ce qui a vraiment changé, c'est le rapport à la presse, le rapport à la critique. Ça me frappe beaucoup. La presse s'excite, dans le cas de Houellebecq, c'est absolument manifeste, sur des choses périphériques. Bon, on pose des questions sur la Valoir, et en fait, on a l'impression que le contenu passe après. Hein. Il y a un phénomène médiatique qui se bouffe lui-même d'une manière que je trouve absolument imméritée et scandaleuse. Donc j'ai dit aux critiques, écoutez, moi Je pense que la meilleure des choses, c'est qu'on se reparlera le jour où vous aurez lu le livre. Bon, avant, il n'y a pas grand-chose à dire.
Alors, dans ce cas-là, je vais prendre la défense des journalistes qui ne peuvent pas lire le livre, paraît-il. Houellebecq.
Ils le liront en temps utile, ils l'auront dans quelques jours, ça ira. Si on aime vraiment son métier, on peut lire un livre en 48 heures. Moi, j'étais longtemps critique, mais le donner trop tôt à trop de gens, c'est provoquer des phénomènes totalement incontrôlables, aberrants. Ça s'était produit sur plateforme. Moi, je pense que Houellebecq a décidé lui-même d'apparaître le moins possible, de donner à lire en avance son livre à peu de critiques. J'ai respecté ses volontés. De ne pas donner le livre tant que les épreuves n'étaient pas nickel, et ça, on l'a fait. Alors, à partir de là, il y a une sorte de... Parce qu'il y a de la jalousie entre les médias qui fait que la sauce monte et que ça devient scandaleux. Moi, je trouve ça totalement naturel. Un auteur a le droit de décider, en accord avec son éditeur, à qui il va donner une sorte de priorité pour des raisons nombreuses qui peuvent être affectives, qui peuvent être idéologiques, qui peuvent être intellectuelles. Et puis, après, tout le monde aura le livre et tout le monde pourra le lire et en parler librement. Et ça se passe comme ça dans le meilleur des mondes.
Sortir autant de livres, parce que pourquoi pas se centrer sur quelques livres qu'on peut accompagner, soutenir, des premiers romans, des choses un petit peu fragiles. Est-ce que cette quantité ne nuit pas à la qualité ?
Je ne sais pas si elle nuit à la qualité. Ce qui se passe depuis quelques années, c'est que, disons, il y a une saison romanesque, comme il y a une saison de blanc ou une saison des soldes, et que les livres qui ne sortent pas dans cette période d'effervescence, en plus il y a l'intervention des prix littéraires qui joue beaucoup dans cette espèce d'excitation, qui est d'ailleurs créée par les médias, hein, et pas par les éditeurs. Il y a une sorte d'appel d'air qui fait que tous ces livres paraissent presque en même temps. Et c'est évident que c'est assez critiquable. Moi, je pense, j'avais essayé chez Flammarion de réduire la production. Alors, on se heurte à plusieurs difficultés. L'une, c'est que des auteurs veulent absolument paraître dans la rentrée littéraire. Ils le souhaitent et on ne peut pas aller contre leur volonté. L'autre, c'est que quand on veut se signaler comme éditeur de littérature, de romans, de fiction, ce qui est le cas de Fayard, il faut en sortir pas mal pour être visible. Et puis, il y a le fait que dans cette masse de livres qui arrivent, indépendamment de la production de telle ou telle maison, il y a toutes ces petites maisons d'édition qui publient parfois un, deux ou trois livres, mais qui sont très nombreuses, et c'est elles aussi qui augmentent la production générale. Donc, on a une vision, quand on prend un peu de recul, on a une vision beaucoup moins délirante de la production, c'est qu'il y a plus d'éditeurs qui font de la fiction qu'avant. Et maintenant, tous veulent jouer dans la cour des grands, donc ça crée une sorte de profusion et d'emballement.
Ça, c'est quelque chose qui vous dérange, cette multiplicité ?
Non, moi, ça ne me dérange pas, non. Je crois que ça complique pas mal la vie des critiques, mais en même temps, quand ils se plaignent, je leur dis qu'ils y charrient, puisqu'ils ont un métier formidable, ils reçoivent 500 bouquins, ils peuvent très bien choisir, ils ne sont pas obligés de les lire tous. Non, je crois qu'il ne faut pas se plaindre. Ça prouve qu'il y a une certaine vitalité, un certain intérêt de tout le monde. Bon, les libraires aussi se plaignent beaucoup. Ils se plaignent tout le temps, de toute façon. Donc, c'est pas... Là, ils se plaignent qu'il y a trop de livres. Moi, je trouve qu'ils devraient être contents parce qu'ils pourraient se plaindre s'il n'y en avait pas assez. Là, il y a vraiment... On pourrait s'inquiéter. Et surtout, je me garderais bien de tirer à boulet rouge sur quiconque parce que c'est... En même temps, c'est des métiers exaltants, passionnants d'être critique ou libraire. C'est des métiers difficiles aussi, parce qu'on peut se tromper, parce qu'on est soumis à des pressions, parce qu'on n'est pas toujours très libre, parce que on est, les éditeurs aussi d'ailleurs, vous savez, on est tous à la proie au doute. Hein, on lance ces livres-là en espérant qu'ils vont avoir une audience, mais il faut attendre trois mois pour savoir ce qui se passe. En attendant, on est un peu comme dans le noir, quoi, dans le... Donc, c'est des métiers équivalents, c'est des métiers où il y a beaucoup d'incertitudes, où il y a beaucoup de d'hésitations, disons, dans le jugement. Il y a des livres qui sont tout à fait inattendus, mais c'est rare, malheureusement. C'est ça que je regrette, c'est qu'il y a très très peu de livres qu'on n'attend pas. Alors, la vraie bonne surprise, c'est quand un ouvrage arrive et qu'il n'est pas attendu et qu'il a du succès. Là, c'est sympathique.
Je voudrais vous poser une dernière question sur les éditeurs aujourd'hui. Il y a beaucoup de, enfin, Il y a eu beaucoup de remous ces dernières années dans l'édition, en termes économiques, hein, des groupes qui en ont racheté d'autres, le Seuil qui a été racheté par la Martinière, et donc avec ça aussi beaucoup de critiques sur cette évolution. Bon, qu'est-ce que vous en pensez ? Après, j'ai une autre question à vous poser.
C'est vrai que le paysage a changé. Bon, le capital s'est emparé d'une bonne partie de l'édition française, comme on disait autrefois, comme disaient les gauchistes. Ça dépend des maisons. Hein. Je pense que le Seuil a subi un gros choc, pas seulement financier, mais mental, ou spirituel, ou intellectuel. Et c'est une maison qui était déjà fragilisée. Dans le cas de Fayard, ça tient beaucoup à la personnalité de Claude Durand, qui dirige cette maison et qui, tant qu'il est là, à mon avis, la défendra et la maison continuera à la fois à avoir du succès et à viser la qualité. Donc je pense que même dans ce contexte de regroupement, les individus ont toujours un rôle à jouer. Hein. Si on résiste bien, si on joue le jeu intelligemment, si... Regardez dans le cinéma, la période glorieuse d'Hollywood, c'était quand même les grandes compagnies, c'était la Paramount, c'était la Warner Brothers, c'était la Goodwin... etc. Donc il n'y a pas, entre la création et la taille, il peut y avoir adéquation. C'est toujours l'exemple qu'il faut citer. Jamais le cinéma américain n'a été aussi intéressant et puissant que quand il était dans les mains de quelques-uns. Après, les petites compagnies ont vivoté. Donc moi je suis plutôt optimiste à condition de trouver des éditeurs. On a besoin d'éditeurs. Alors le problème, c'est qu'il y a de moins en moins d'éditeurs, peut-être. Il y a des gestionnaires, il y a des hommes de coût, mais un éditeur, comme il en existait il y a 20-30 ans, quand j'ai commencé, et même plus longtemps, là, je n'en vois pas beaucoup apparaître. Et le problème, donc, n'est pas financier, n'est pas cette histoire de groupement, c'est de donner envie à des gens de faire ce métier, quoi. Et pour le moment, je ne vois pas arriver beaucoup d'éditeurs talentueux.
Alors, vous, est-ce que vous vous sentez plus libre aujourd'hui en étant chez un gros éditeur, Fayard, qui fait partie d'un gros groupe, Lagardère, que quand vous étiez lecteur au Seuil, que vous avez commencé le métier il y a quelques années?
À l'époque du Seuil, il n'a rien à voir. À l'époque du Seuil, c'est quand même au début des années 60, c'était encore une petite maison. Les maisons d'édition n'avaient rien de gigantesque. Elles se contentaient de publier des collections très précises d'histoire, de spiritualité, de poésie. Il n'y avait pas d'industrie encore. Donc, on ne parlait jamais d'argent. Moi, pendant des années, j'ai jamais entendu parler d'argent. J'ai commencé à parler d'argent quand je me suis trouvé dans des petites maisons qui étaient en fait des annexes de soit Champs Libres, qui était une chose très particulière puisque c'était un mécène privé qui s'appelait Gérard Lebovici, bon, qui est devenu célèbre, notamment parce qu'il s'est fait assassiner il y a une vingtaine d'années dans un parking. Donc c'était son propre argent, l'argent qui est dans le cinéma. Et à un moment donné, il a commencé à se poser des questions et sur l'argent qu'il dépensait, mais en même temps pas trop. Et quand je suis rentré chez Flammarion, là aussi, petit à petit, il a fallu que, surtout les dernières années, il a fallu que je sois non seulement éditeur de textes, mais responsable d'un budget. Il fallait tenir le budget avec des contrôles mensuels. Et ça impliquait évidemment d'alterner des livres de qualité mais peu rentables avec des ouvrages de plus grosse rentabilité. Donc c'était à l'éditeur de s'arranger. Mais au fond, c'était comme ça dans l'édition avant, seulement on ne nous en parlait pas. Je sais que Gaston Gallimard gérait très bien sa production avec des ouvrages invendables, signés Artaud, signés, André Breton. Et puis que l'argent venait de livres beaucoup moins intéressants, évidemment, mais faciles à vendre. Et c'est ça qui faisait vivre la maison. Après, ça s'est retourné. La maison Gallimard vit en grande partie sur ce fonds prestigieux. Mais pendant longtemps, c'était pas le cas. Money, money, make people happy. Money, money, make people happy. Money, money, make people horny. Il n'y a pas de délire, il n'y a pas la volonté de se payer une star, quitte à perdre de l'argent. Donc tout ça, c'est des affaires. C'est des affaires très saines.
Voilà, des affaires très saines. On est toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission Les Oreilles Loin du Front. On vient donc d'entendre un reportage de Fred avec Emmanuel Sorin.
Non, Raphaël.
Raphaël Sorin.
Donc, s'il nous écoute, hein.
désolé pour le prénom. Donc, à ma droite, les offices forcés. À ma droite, les vendeurs d'armes qui vendent des livres, des agents qui ont des auteurs ou des auteurs qui ont des agents, des transferts à 1 million d'euros et 40 000 titres par an. À ma gauche, Sylvie Labat, libraire indépendante, qui se plaint sûrement qu'il y a trop de livres. À ma gauche, donc, Sylvie, avec sa librairie d'à peine 80 mètres carrés, comptoir compris, au centre de Saint-Denis. Raphaël Sorin, tout ont bu à tirer le premier. Sylvie, quelques réactions?
En fait, tout de suite, je me demande, est-il gestionnaire ou est-il éditeur? Parce qu'a priori, il dit qu'il n'y a plus beaucoup d'éditeurs. Donc, comment se positionne-t-il? Après, non, je n'ai pas de surprise, vraiment. Quoi. Je vous laisse prendre la parole parce qu'il faut que je réfléchisse là.
les derniers mots là qu'il a dit sur cette évolution de l'édition, où il dit effectivement que l'économie rentre de plus en plus dans ses choix, même dans les choix des livres, puisqu'il dit quand j'étais chez Flammarion, il fallait d'abord que j'équilibre mon budget, donc il fallait que je fasse des livres qui marchent. Et bon, après, je sors 2-3 trucs qui marchent pas, mais. Donc ça veut dire que concrètement son choix éditorial se fait d'abord sur l'économie.
De toute façon, depuis les années 80, depuis que les gros structures financières qui n'étaient pas éditeurs sont rentrées dans l'édition, hein, c'est devenu ça, hein. D'ailleurs, ils ont réussi une chose extraordinaire, mais je pense sur n'importe quel type de produit d'échange, on va dire, si on estime que le livre est un produit. C'est-à-dire qu'en rachetant les grosses structures financières, en rachetant, on fait ce qu'ils faisaient partout. Ils ont essayé de multiplier. Alors, ça me fait rigoler quand il dit que c'est les petits éditeurs qui... c'est de la faute des petits éditeurs. C'est de leur faute s'il y a une multiplication de livres.
Ça, c'est un argument classique, justement, de la grande édition.
Oui, tout à fait. Oui, d'ailleurs, à savoir que les petits éditeurs n'ont pas accès au syndicat national du livre s'ils ne font pas au moins 1 million de chiffre d'affaires. Hein. Donc, en gros, ils n'ont pas tout à fait le droit à la parole non plus, ni de se défendre. Voilà. Donc l'arrivée de ces grands groupes dans l'édition a fait que ils sont mis à multiplier les bouquins. Pourquoi? Parce que c'est de la guerre, hein. C'est de la guerre géopolitique, géographique, on va dire. C'est du lieu. C'est-à-dire comment on prend la place dans les surfaces qui vendent des livres. Donc dans les librairies, à l'époque où il y avait les grandes surfaces qui arrivaient aussi, qui commençaient à vendre des livres. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont multiplié le nombre de bouquins. Alors ça avait des titres différents, mais en gros le contenu était le même. D'ailleurs aujourd'hui, vous pouvez avoir un livre qui sort. Vous le multipliez par 50, vous changez le titre et ça fait à peu près, dans une librairie normale, vous en avez à peu près plusieurs comme ça. Hein ? Je crois que dans les 600 titres qui sortent à la rentrée, effectivement, ce qu'il dit, hein, qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui nous étonnent. Voilà. Parce que de toute façon, c'est la même chose. Hein ? Vous avez Harry Potter qui va marcher, vous avez 200 Harry Potter qui vont suivre. Là, ils vont s'appeler, je trouve où, j'en sais rien. Mais ce sera du Harry Potter, de la sauce Harry Potter, à l'Harry Potter. Vous avez, voilà, ça fonctionne comme ça. Donc, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que comme ils ont pris l'espace et que les libraires avaient l'habitude de présenter ce qui sortait, hein, donc tout, hein, ça a été très difficile pour les libraires parce qu'ils ils se sont retrouvés avec une multiplication de livres sur leur table. Ils ont dû avancer la trésorerie, puisque les libraires sont les banquiers pauvres des éditeurs. Hein, c'est-à-dire qu'on avance la trésorerie. Et si le livre n'est pas vendu, on a quand même avancé la trésorerie. Voilà, on a payé le livre, on paye tous les livres qui rentrent dans la librairie. Voilà, et si on ne les vend pas, on les a payés. Voilà.
Et après, explique la fin du circuit.
Et après la fin du circuit, on a le droit de les rendre entre 3 mois et 1 an. Hein, sauf qu'on les a déjà vendus, on les a déjà payés. Si on ne les vend pas, on les rend, mais on ne nous rembourse pas en argent trésonnant, on nous fait des avoirs. Voilà. Donc à un moment, les libraires ont toujours un problème de trésorerie en fin de mois. Hein. C'est toujours le souci. Et puis en plus, avec des marges qui sont beaucoup moindres que les autres commerces. Bon, c'est ce qui a d'ailleurs... la loi Lang est née à ce moment-là, dans les années 80, parce que les grandes surfaces arrivent. Une multiplication de livres, une multiplication de grandes surfaces. Les libraires qui vendaient un livre le vendaient plus cher que la grande surface, mais ils achetaient moins cher à la grande surface que chez l'éditeur. Donc, petit souci, les libraires disparaissent et les petits éditeurs, parce que les petits éditeurs, ils ne se sont pas présentés en grande surface. Voilà, puisque les grandes surfaces appartiennent au même groupe financier que les éditeurs, enfin, on en passe. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que la disparition des petits éditeurs, emmerde quand même un petit peu les gros éditeurs, parce que c'est leur fond de commerce au bout d'un moment. C'est-à-dire que quand quelque chose marche chez un petit éditeur, 2 ans ou 6 mois après, c'est repris par un gros éditeur. Ça marche, donc ça rapporte. Hein. Donc c'est pour ça les transferts aussi. Donc du coup, tout le monde s'est un petit peu apitoyé sur les disparitions de libraires et d'éditeurs. Et on a fait cette loi langue que Jérôme Lindon avait défendue depuis 20 ans. Ça faisait 20 ans qu'il bossait là-dessus, qui s'est appelée la loi langue, qui aurait pu s'appeler la loi Lindon quand même, et qui fait que le livre a un prix unique décidé par l'éditeur.
Sur lequel on peut jouer à la marche à
5%. 5%, oui, ce que fait la FNAC. Hein, voilà. Et du coup, les petits libraires, comment on fait une carte de fidélité? Moi, j'aimerais bien que les gens achètent leur livre au prix que ça me... au prix où c'est fixé par l'éditeur, parce que du coup, quand on fait une marge de 5%, enfin, on fait un cadeau de 5%, on perd 5% sur nos salaires à nous, qui sont pas mirobolants, on va dire. Bon, bref. Et du coup, cette loi a fait aussi qu'on fixait les marges que gagnaient les libraires. Donc, une grande surface qui a des livres a des marges pareilles qu'un libraire, hein, sauf qu'elle vend autre chose à côté et qu'elle va se faire un fric monstre sur le pot de yaourt. Voilà. Le libraire, il vend que des livres, donc il se fait une marge. En gros, c'est entre 30, c'est une moyenne de 30-35%. On sait qu'une librairie fonctionne que si elle a au moins 35% de marge. Ce qui fait qu'on est toujours sur la corde raide. Si vous allez dans une autre boutique de pantalons, par exemple, si un pantalon par le vendeur s'achète 10 francs, hein, il va le revendre 150 francs. Ce n'est pas du tout 30% de marge. C'est autre chose. Et il ne paye pas ses salariés en plus. Donc, en gros, voilà, la différence, elle est là. Donc, en fait, l'arrivée, la multiplicité de ces livres a fait disparaître des petites librairies. Hein. Donc, il a fallu qu'on apprenne à s'adapter, à comprendre et à dire non, ce qui est une bonne chose. Hein. Enfin, moi, je suis de plus en plus radicale et j'ai appris à dire non. On nous culpabilise beaucoup. Et en plus, comme ces gens-là, en plus, et les livres et les médias, ils font leur propre pub. Hein. Et donc les gens arrivent avec des demandes de bouquins qu'ils ont lus dans la presse, dans toute la presse, toute. Il y a peu de presse non influençable. Si on regarde la presse dans la rentrée, qu'elle soit de gauche, de droite, extrême gauche, extrême droite, je crois qu'à peu près, on a quasiment les mêmes bouquins qui sont chroniqués. Les mêmes bouquins, ça veut dire en bien, en mal, mais de toute façon, c'est une chronique d'un bouquin. Donc c'est en gros lui faire de la pub automatiquement. Houellebecq, qu'il soit bien chroniqué ou mal chroniqué, on parle de Houellebecq, c'est tout. Hein, on fait même des livres, il y a 2 livres qui sont sortis sur Houellebecq au même moment que le Houellebecq. Donc, on aimerait un peu de silence, quelquefois. Voilà. Et donc, le fait que... Enfin, sur les petits... Enfin, je trouve... Enfin, bon, ça m'énerve, hein, ce genre de personnage, de toute façon. Je trouve que ça manque de cellules grises et d'intelligence. Puis, c'est surtout des gens qui ont baissé les bras et qui jouent à l'autruche, si ça les arrange, mais qu'ils arrêtent de faire la morale. Et... Enfin, ça m'énerve parce que le quotidien chez nous, c'est pas du tout ça. Voilà.
Et justement, là, sur ça, sur ce jeu médiatique aussi... Moi, ce qui m'a étonné en le voyant, Raphaël Sorin, effectivement, c'est, tu vois, dans son grand fauteuil, bien confortable, et en même temps, avec toutes les manettes, on a l'impression que toutes les manettes, elles sont à côté de son bureau, quoi. Quand il dit les critiques font pas leur boulot, je sais pas quoi, en même temps, on comprend très bien que lui, dans sa stratégie, c'est qu'il émerge 2-3 bouquins de chez Fayard qui inondent les librairies, qui inondent les médias aussi. Enfin, ce jeu-là, c'est un jeu, c'est un jeu de dupes, quoi. Il sait très bien ce qu'il fait, et c'est sûrement intégré aussi dans sa manière de sortir le livre. Et j'imagine qu'il y a des conséquences aussi à ça. Mais ce que tu viens de dire sur le fait qu'il y ait quelques livres qui soient chroniqués. Donc c'est ces livres-là qu'on va venir te demander tous les jours.
Oui. Bah, c'est compliqué pour les lecteurs, hein, de toute façon. Effectivement, il y a énormément de livres, hein, donc ça demande une envie d'ailleurs de rentrer dans une librairie où il y a une sorte d'indépendance et après de demander au libraire s'il a confiance, qu'est-ce que vous pensez de ce bouquin qui est chroniqué tout le temps dans tous les journaux, quoi. Bon, c'est vrai que le Brie Goncourt, moi je vois la librairie, c'est pas ce qu'on vend le plus, à une époque oui. Maintenant, on est là depuis 7 ans, ça devient ce que tu l'as lu. Non, ah ben j'attends que tu le lises, c'est tout. Je ne le lirai pas, voilà. Par contre, j'ai lu ça, c'était super. Ou j'ai lu ça, ça m'a beaucoup moins plu. Enfin, on peut discuter. Donc après, c'est pour nous, en tout cas, moi, ma façon de résister, c'est de créer du quotidien où on se sent bien. où les gens sont bien, où on peut s'engueuler aussi, se confronter, c'est pas grave. L'important, c'est de vivre, quoi. C'est de vivre. Et puis de décider d'être le moins influencé. Je pense que pour le coup, je pense que les lecteurs qui viennent à la librairie sont vraiment. Moi, je suis hyper heureuse d'être à Saint-Denis. Je trouve qu'on discute vachement, qu'on peut s'engueuler vachement sur des bouquins, et ça a un sens. Ça a un sens. Et puis il y a plein de gens qui viennent nous. Du coup, maintenant, puisqu'on a commencé, enfin, qu'ils attendent nos conseils, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils nous donnent des conseils aussi. Donc, ça devient de l'échange. C'est un lieu d'échange et basta, c'est un point. Donc, après, si on peut nous présenter. Enfin, ma position aussi, c'est de freiner sur les achats. Enfin, à qui j'achète. Hein. Donc, je vais plutôt. Mon chiffre d'affaires va plus se faire. Puisqu'on parle de chiffre d'affaires, à 70% sur des éditeurs indépendants et 30% sur la grosse cavalerie. Parce qu'on ne refuse pas la grosse cavalerie, mais on ne l'a pas sur les tables. Donc ça demande aux gens d'attendre qu'on le commande. Voilà. Donc il faut qu'ils comprennent à un moment donné qu'il va falloir qu'ils attendent.
Et ça, ça a un coût pour toi en termes de gestion de la librairie, enfin, c'est un choix qui...
C'est très, ça, je le paye très cher. Je le paye très cher et c'est ce qui risque de me foutre dedans quand Virginie va arriver. Parce que, bon, attends.
Virginie fait de la gestion, oui.
Ah bah, par exemple, en ce moment-là, je sors d'une journée, on a tous les livres scolaires. Moi, je déteste les livres scolaires. C'est un truc qui m'insupporte parce que c'est toujours ces mêmes éditeurs, c'est toujours les mêmes groupes qui fabriquent du livre scolaire, qui, avec les, je dirais, avec l'État, les enseignants, tout le monde joue le jeu du livre scolaire. On les refait tous les 4 ans pour la bonne cause, sauf que ça coûte un fric monstre, sauf que on s'y retrouve pas, sauf que ça stresse tout le monde, sauf qu'il faudrait réfléchir comment on partage les savoirs déjà pour après faire des outils pour partager le travail. Bon, ça, de toute façon, c'est même pas la peine d'y réfléchir. On le fait parce que ça permet aux enfants de rentrer à la librairie, de le passer le mieux possible. Ne pas se retrouver à Gibert Jeunesse ou Gibert Jeune ou Gibert Joseph en pleine rentrée. Et puis de leur dire, vous pouvez attendre une semaine pour avoir vos livres scolaires. Si vos enseignants ne sont pas contents, ils nous appellent. Donc déjà, ça a des angoisses. Moi, j'adore quand les enseignants m'appellent. Je leur explique exactement quoi ils sont responsables aussi du monde dans lequel ils sont en train, enfin, sur lequel ils sont en train d'être désespérés. Parce qu'on y participe à ce monde-là. Hein. Donc à un moment donné, c'est ça. Et puis c'est de dénoncer un maximum, parce que c'est toujours ces éditeurs donc, qui éditent, hein, qui font les livres scolaires, qui attendent que les libraires comme moi les font. Alors on ne gagne rien sur les livres scolaires. Hein. On a des remises de merde et je dirais on perd de l'argent. Par contre, Virginie, ils ne feront pas les livres scolaires. Leur patron fabrique des livres scolaires, Virginie ne le vendra jamais des livres scolaires, ce n'est pas rentable.
Ce qu'il faut dire, c'est que Lagardère, avec les récentes acquisitions, détient 80% du livre scolaire aussi.
Oui, bah, le dictionnaire, 90%. Oui. Bah, c'est un des trucs les plus rentables, hein. C'est de l'argent public, hein, déjà. En plus, j'ai appris il n'y a pas très longtemps que Lagardère avait vendu des films de manuels d'histoire au Niger, hein, d'il y a 40 ans. Pour permettre au Niger de fabriquer lui-même ses propres livres scolaires. Donc en plus, ça sert 40 ans après. Des livres d'histoire. Donc voilà, en fait, tout ça, en gros, c'est le même monde. Donc moi, je pense qu'il faut choisir son monde. Donc effectivement, mes actions sont plus dans le frein et dans la demande aux gens de prendre le temps et d'attendre. D'apprendre à attendre et puis éventuellement de se perdre dans les rayons. Là, on a du fond. C'est-à-dire que sur nos tables, ça va être plutôt... Moi, je ne joue pas le coup des nouveautés. Je vais mettre plutôt des livres qu'on aime, enfin qu'on a aimés. Ça peut être des nouveautés, mais ça peut être du fond. Hein.
Est-ce que tu peux expliquer justement un peu mieux la différence entre la nouveauté et le fond et comment tu gères ça dans ta vie ?
Alors, le fond, c'est les livres qui nous paraissent être importants à travers les temps. Voilà, je pense qu'il faut... Il y a des livres comme... je ne sais pas, qu'on a à la librairie, comme « Hommage à la Catalogne » de Orwell. Je pense que c'est important. Ou « La ferme des animaux ». Je pensais tout à l'heure aux amis... je ne sais pas, tu parlais des amis... les bêtes. Hein. Je pense à Orwell qui dit « Au départ de la ferme des animaux, tous les animaux sont égaux. Puis à la fin, c'est « Il y a des animaux plus égaux que d'autres hein. ». Voilà, on est dans ce monde-là. C'est tout, il faut le savoir. Et la littérature, ça peut être super pour ça, pour rentrer dans le monde et mieux le comprendre. Et alors le fond, c'est les livres auxquels on tient. Et les livres peut-être auxquels une partie des lecteurs qui viennent à la librairie tiennent. Les enfants, les grands comme les petits, moi je ne fais pas de différence. Hein. Et puis les nouveautés, ça passe secondaire pour moi.
Donc, est-ce que le monde de l'édition tel qu'il est structuré actuellement va dans ton sens?
Non, pas du tout. Alors le souci, c'est que le fonds est de moins en moins réédité puisqu'il appartient de plus en plus aux gros, hein, et que le fonds demande du temps. Alors c'est ça le souci, c'est que quand les grands, les groupes financiers ont repris les éditeurs, hein, ils ont fait ce système où ils ont multiplié les nouveautés, alors qu'avant, dans les années 80, c'était le fonds qui finançait la nouveauté. Ça, c'est important. Et du coup, l'arrivée des grands groupes financiers modifie totalement ce terrain. C'est-à-dire que maintenant, c'est la nouveauté qui éventuellement financera le fonds.
Le principe de rotation rapide.
Voilà. Donc le fonds, ben, moi, j'ai des livres, je les ai depuis 7 ans, je ne les ai jamais vendus. Mais je veux qu'ils soient dans ma librairie.
Et justement, moi, je veux dire deux mots quand même sur... J'ai l'impression que le temps de l'édition devient de plus en plus un temps court, que quand... Enfin, nous, on voit, parce qu'un coup de temps en temps, on a affaire aux maisons d'édition et à ses attachés de presse, on a l'impression que c'est le moment où ils vont faire la pub d'un livre et le moment où ils l'ont complètement oublié, où ils sont en rupture de stock, est de plus en plus réduit. C'est une impression ou c'est réel chez ces grosses maisons?
Ben, on a des bouquins, par exemple. Alors, je ne sais pas combien ils en sortent. Il y a des bouquins, ils ne sont plus disponibles à partir de... au bout de 3 mois, 2 mois. Et ils ne seront plus réédités. C'est une édition, point, final, barre. Voilà. Alors, quand c'est Houellebecq, il prévoit 600 000 titres, exemplaires qui vont sortir. C'est du balayage partout. Alors, je voudrais aussi dire que par rapport à Houellebecq aussi, c'est, par exemple, quand il était chez Flammarion, ce monsieur qui a travaillé avec Houellebecq, donc qui est passé chez Fayard, je pense qu'il fait à peu près la même chose, c'est qu'on venait dans nos librairies, on disait, il y a un Houellebecq qui va sortir. Ah, il faut que t'en prennes parce qu'il va être sûrement censuré, il y aura sûrement un jugement. Voilà les super arguments de vente. Et effectivement, il y avait procès. Moi, ça déjà, ça me fait... Non, j'en veux pas. Si on me le demande, je le commanderai. Mais il faudra attendre. Voilà, c'est tout. Mais ça commence comme ça. Alors, effectivement, alors, ce monsieur dit qu'il y a quelque temps, il vendait, pour vendre du fonds et fabriquer de la création, je dirais, ou pouvoir promouvoir de la création, il faisait des livres qui étaient faciles à vendre. Voilà. Sauf que là, il ne fait que des livres faciles à vendre. Et il dit qu'il y a un problème d'éditeur, sauf que c'est lui l'éditeur. Donc il y a un moment où ça se mord la queue.
Il dit qu'il n'y a plus d'éditeur talentueux.
Oui. Qui il est, lui? C'est bien de dire qui il est.
Il se mettait pas dedans, évidemment.
Pourtant, il paraît être éditeur, non? Je ne sais pas. Ah, oui. Ou il est gestionnaire? C'est là que je pose la question.
Justement, il parlait lui-même d'une évolution par rapport à la conception que pouvait avoir Gallimard, que Gallimard d'ailleurs revendique toujours, de publier quelques ouvrages de qualité qui ne vont pas beaucoup se vendre, et de les financer par des best-sellers, par des trucs qui vont partir énormément. Seulement maintenant, les choses ont un petit peu évolué, quoi. Il s'agit surtout de trouver le best-seller et le livre de qualité derrière.
Sauf que Gallimard, quand ils font des best-sellers, qu'ils veulent faire des best-sellers, c'est genre un bide total. Parce qu'ils savent pas faire. Ils savent pas faire, parce que de toute façon, ils ont une vision du best-seller. Hein, et Gallimard a le nom Gallimard pour les gens. C'est... Donc du coup, ça devient une production moyenne. Moyenne. Voire neutre. Donc, du coup, ça les coule. Il y a un moment, moi, je crois que les petits éditeurs ont leur place, ceux qui font, qui croient vraiment en ce qu'ils font et puis qui le font bien. Sauf que ça pose la question de la distribution en France, donc de la librairie, donc de la diffusion aussi. Hein. Donc, et la diffusion, ça reste pour un gros souci pour tous. Ils aimeraient tous que le livre se fabrique et qu'il arrive directement à la librairie sans rien, quoi. C'est pas possible, un livre ça pèse, hein. Ça a un poids, ça a une forme, ça, il faut l'écrire, il faut à un moment l'imprimer, ça coûte assez cher de faire un livre. Donc à un moment, comment on travaille sur la diffusion et la distribution? Et je pense que là, on a un hic aussi, c'est que les librairies, on a du mal à s'organiser aussi, les librairies indépendantes, parce qu'on bosse comme des malades, et qu'à un moment, on n'arrive pas à se voir, ou quand on se voit, c'est pour un peu picoler un coup, ça nous fait du bien. Il faudrait qu'on apprenne à s'organiser pour créer des réseaux de libraires vraiment indépendants pour les éditeurs indépendants. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il faut qu'on fasse, quitte à faire des réseaux associatifs, enfin, à travailler avec un peu tout le monde.
Les idées saines, qu'est-ce que c'est?
C'est les idées qui font que ça marche. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Il y a plusieurs façons de traiter l'actualité. Nous sommes en train de crever. Qu'est-ce que c'est que la vérité? La vérité, c'est la vie. La vie, c'est ce qui marche. Il y a plusieurs façons de traiter l'actualité. Il y a plusieurs façons de traiter l'actualité. Il y a plusieurs façons de...
avec la dette, c'est énorme, on s'en regarde. Le déficit, on s'en fout, 45 milliards d'euros, c'est pas grave. Réalité, pas la fiction, réalité. Pas la fiction, réalité, réalité. Pas la fiction, 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 réalité. Il faut le savoir, les moyens de travailler, les moyens de produire, les moyens de créer des bons produits, le moyen de les vendre, eh bien la France va tout droit à un chômage généralisé. C'est ça la vérité, faut que ça marche. C'est la vie où ils vendent la fiction, les moyens de produire, réalité. Pas la fiction. On vit dans la fiction parce qu'on oublie. On oublie que l'économie, c'est fait pour fabriquer et pour vendre à des clients qui acceptent d'acheter des produits bons, pas chers et de bonne qualité. C'est la vie. Aujourd'hui, la France va mal. Bah, c'est l'idée qui faut que ça marche. Il y a plusieurs façons de traiter l'actualité. Qu'est-ce que c'est que la vérité? La vérité, c'est la vie. La vie, c'est ce qui marche. La vie, c'est la vie, c'est la vie. Réalité. Nous sommes en train de crever. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Il y a plusieurs façons de traiter l'actualité.
Voilà, il y a plusieurs façons de traiter l'actualité. Il y a plusieurs façons de traiter l'édition. On est toujours sur Fréquence Paris Pluriel, l'émission Les Oreilles Loin du Front. On est toujours avec Sylvie Labat, libraire à Saint-Denis. Juliette.
Oui, on va revenir juste brièvement sur justement ce que tu évoquais juste avant, la question de la distribution et de la diffusion, parce qu'il faut savoir, c'est le problème dans le livre actuellement, c'est pas seulement un problème de concentration dans l'édition, c'est un problème de concentration dans la diffusion et la distribution, c'est-à-dire que les machines d'acheminement des livres, les personnes qui font connaître les livres et tout ça, c'est des structures qui sont maintenant intégrées aussi aux grands groupes d'édition. Est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu là-dessus?
Ben, en fait, on dit que la distribution, c'est le nœud de la guerre. Hein, la diffusion, la distribution, c'est ce qui va faire que on va parler d'un livre dans une librairie avant qu'il sorte, et c'est ce qui va faire que le livre va arriver un jour dans la librairie s'il sort. Voilà. Et le souci, c'est qu'effectivement, le distributeur a pris énormément de pouvoir. Hein. Donc,
on a eu un cas récemment, justement, autour de La Martinière.
Oui, bah, quand La Martinière a fabriqué son entreprise de distribution qui s'appelle Volumen. Hein. Justement, il gérait les volumes, mais pas l'unité, on va dire. Et du coup, on s'est retrouvés, par exemple, on commandait un livre, c'est-à-dire qu'on décidait d'avoir un livre dans nos librairies, et on avait genre le message « Ce livre existe, mais nous ne l'avons pas trouvé ».
C'est original.
Voilà, ça s'est un peu multiplié. Et puis des pertes de carton, et puis des... Du coup, à un moment, à la rentrée, effectivement, comme ils n'arrivaient pas à gérer le volume de livres qu'ils avaient décidé d'être... ils nous envoyaient ce qu'ils voulaient. Voilà, donc une sélection de je ne sais plus combien de livres en rentrée littéraire. Donc les meilleures ventes de l'Express, quoi, c'était en gros. Donc ça a été un branle-bas de combat.
Le distributeur qui déterminait...
Parce qu'effectivement, les libraires peuvent être encore un peu emmerdants et caractériels et... Quand ils s'énervent un peu, mais tant mieux. Non, moi j'espère qu'on va arriver à... C'est compliqué parce que plus on est petit, plus on est très précaire en fait. Hein. Et les éditeurs, les distributeurs, les tout petits distributeurs. Je pense à des associations comme Ateles, hein, les coopératives comme Cohérence. Hein, à un moment, c'est une fragilité. Ça demande comment on envoie des livres partout en France. Comment on fait ? Par la poste ? La poste, c'est... j'ai envoyé un petit carton de livre que je devais retourner à un éditeur. Ça m'a coûté 10 euros. Donc, comment je fais ? Comment on fait ? Comment le distributeur fait ? Comment on fait les coûts du transport ? Parce qu'un livre a un prix unique. On ne va pas en plus. C'est déjà un prix élevé. Un livre coûte cher. Enfin, coûte cher. C'est-à-dire que les porte-monnaies n'ont pas les moyens d'acheter les livres qu'ils ont envie d'acheter, enfin dont les propriétaires du porte-monnaie ont envie d'acheter. Donc à un moment, on ne va pas en plus, hein, d'ailleurs c'est interdit par la loi, rajouter le coût du transport. Donc c'est ça. Donc il y a vraiment un système à réfléchir et à trouver. C'est-à-dire à multiplier peut-être, comme les éditeurs se sont multipliés, les petits éditeurs, comme une fabrication de petits équilibres partout, hein. Parce que c'est les petits éditeurs qui équilibrent les gros, quand même. Heureusement. Enfin, c'est eux qui nous donnent encore de l'espoir et puis des moments de bonheur dans nos librairies. C'est comme à un moment, il faudrait que la diffusion et la distribution suivent aussi. Mais c'est-à-dire qu'on s'empêche de grossir. Voilà. qu'on s'empêche et qu'on se refuse de grossir. Moi, j'ai ma librairie qui fait 80 mètres carrés. On pourrait m'en offrir 250 mètres. Je n'en veux pas. Je suis bien dans mes 80 mètres carrés. Je ne veux pas grossir. Le grossissement, c'est un... Je suis comme tout le monde et je peux devenir aussi un gros.
Et alors justement, sur ces 80 mètres carrés, tu nous as dit que tu avais 70% de petits éditeurs.
Oui, enfin d'éditeurs indépendants. Hein. Donc Gallimard fait partie encore des éditeurs indépendants. J'ai du mal sur la production de Gallimard en partie. Hein. En même temps, je les défends parce que s'ils n'existent plus, s'ils sont rachetés un jour Gallimard, on n'a plus d'éditeurs moyens. Et du coup, il n'y a plus quelque chose, une frontière entre les petits et les gros. Et ça peut être catastrophique pour les petits. Donc il faut maintenir un éditeur comme Gallimard, comme je pensais que ça se maintiendrait. Parce que c'était fondamental. Voilà. C'est fondamental en termes de stratégie. Donc, j'ai du Gallimard parce que j'estime... Bon, puis ils ont une production...
Ils ont un bon fond, quand même.
Non, puis ils ont un bon fond, oui, bien sûr. Ouais, ils ont des bons polars. Enfin, il y a plein de trucs. Mais les petits, il y en a plein. Il y en a plein en jeunesse. Il y en a plein, je pense, aux éditions du Croquant. Je pense des gens comme Agone. Enfin, on est tous... On devient un peu tous caractériels, je dirais. Et puis, hyper... hyper stressé sur nos... Mais on n'a pas trop le choix, parce que sinon, on arrête. Hein.
Et c'est la petite édition qui fait surtout de ce qu'on appelle de l'édition de création, justement, ou de découverte.
Oui, à partir du moment où on est indépendant et puis qu'on est précaire, on n'a plus grand-chose à perdre. Donc, à un moment donné, on fait ce qu'on aime. Et puis après, jusqu'à ce que les auteurs changent de maison, voilà, ou de crèmerie, puisque ça devient une crèmerie après. C'est à un moment, c'est les transferts. Donc, en même temps, il y aura toujours des auteurs, il y aura toujours des petits éditeurs. Enfin, moi, je le pense.
Est-ce qu'il y aura toujours des petits libraires ?
Je pense qu'il faut. On est liés les uns aux autres. S'il n'y a plus de libraires, il n'y a plus de petits éditeurs. Enfin, je le crois parfait. Et s'il n'y a plus de petits éditeurs, moi, j'arrête mon métier, c'est clair. Enfin, ça ne m'intéresse plus.
Et là, comment tu arrives à tenir, justement, vu le panorama qu'on a fait, qui est assez pessimiste ?
On a des gros moments de désespoir. Des gros, gros moments de désespoir. Et en même temps, y a des moments de bonheur, juste parce que les lecteurs qui viennent dans la librairie, c'est Saint-Denis, hein, c'est le monde. Et c'est du bonheur. Donc, on a des enfants de zéro jour, des fois, enfin, de 10 jours. J'en ai vu un aujourd'hui. Et jusqu'aux lecteurs qui n'ont pas 100 ans, parce qu'il n'y en a pas beaucoup à samedi. Et puis, de tous horizons. Et puis, voilà, on se mélange et on se sent bien. Et c'est vrai que la librairie...
Toi, d'ailleurs, tu essaies d'instaurer un autre rapport aux lecteurs qui viennent dans ta librairie.
Moi, je me sens pas trop liée aux professionnels, aux libraires. Je me sens pas au service du tout du libraire ou de la librairie. Ça m'intéresse pas. J'aime les livres. J'aime que ça se partage. Je pense qu'il faut des lecteurs pour les livres, c'est tout. C'est juste ça. Sinon, les livres, ça n'a aucun sens s'il n'y a pas de lecteurs. Donc du coup, et puis les lecteurs, quels qu'ils soient, enfin, quel que soit l'âge, quelle que soit la langue, quel que soit le lecteur, si c'est pas lire ou c'est pas grave, du coup, on a toujours fait des lectures à voix haute dans la librairie. On est en train de monter un réseau de lecteurs publics et d'écrivains publics, hein, donc ouvert à tous, aux petits comme aux grands. Donc on fait une première formation bientôt de lecteurs publics avec des comédiens pour que des petits puissent lire le journal à des grands qui savent pas lire ou qui peuvent pas lire. Voilà, on fait des petits trucs comme ça. On fait les papiers des gens aussi du quartier, parce que la lecture, des fois, c'est remplir la feuille du RMI qui est illisible. Tout est fait pour qu'on n'ait pas envie de lire, de toute façon. Voilà, et du coup, c'est vrai que ça fait que la librairie est un lieu vivant et super pour ça, quoi. Enfin, moi, je suis très heureuse de ce lieu. Je suis très heureuse parce qu'il ne m'appartient pas spécifiquement, il appartient aux gens du quartier, quoi.
Il y a une association qui s'est créée autour de ta librairie.
Oui, les fous d'encre. Justement, c'est ce qui va nous permettre de créer ce réseau de lecteurs publics et d'écrivains publics, parce que je voudrais que les formations soient accessibles à tous, soient gratuites, hein, et que du coup, il faut que ça soit financé. Moi, je ne peux pas les financer, donc on demandera des subventions. Hein. Et puis, du coup, c'est aussi une association qui se mobilise beaucoup contre le Virgin, hein. Donc qui m'aide beaucoup pour réfléchir à comment on peut rigoler autour de cette... ce truc-là qui va arriver, ce Virgin, ce McDo du livre, et puis expliquer aux politiques qui trouvent ça génial, qui trouvent que c'est bien pour les gens. Alors, on ne sait pas de quels gens ils parlent, qu'est-ce que c'est le bien, mais ils trouvent que c'est bien pour les gens. Voilà, et du coup, juste pour leur dire que les gens, là, on voudrait bien qu'ils nous écoutent aussi, que les gens, nous, on est les gens aussi. Parce que d'un côté, il y aurait le peuple, et d'autre côté, il y aurait les intellectuels. Donc, il y a un moment, il y a un souci de définition aussi. Donc, on est en pleine bagarre sur le sens des mots aussi. Voilà, on essaye que ça se passe bien, que ça soit joyeux surtout.
Alors, on arrive au terme de cette émission. Jusque-là, on a été très sympa avec toi, mais on va quand même poser quelques questions qui vont te mettre dans l'embarras. Si j'ai bien compris, il y a plus de 600 livres qui sortent pour cette rentrée littéraire, 200 et quelques traductions, 120 premiers livres. Donc, j'imagine que tu as tout lu cet été. Est-ce qu'il y a livres qui ont retenu ton attention sans avoir fait la une de l'Express ?
Alors, j'ai pas tout lu parce que vraiment ça m'intéresse pas du tout. J'ai même pas lu la presse, ça m'intéresse pas non plus. Donc je ne sais pas de quoi on parle. Après j'ai travaillé les livres il y a 2-3 mois, donc j'ai dû oublier. Ce que j'ai lu cet été, ben, j'en ai beaucoup, parce qu'on en reçoit aussi en librairie des services de presse, comme on dit, ce que je ne demande pas. Donc quand je les demande pas, je les laisse de côté ou les gens s'ils veulent les lire, ils les prennent. Par contre, oui, j'en ai lu un que j'ai trouvé super. Je ne sais plus l'auteur, mais je connais le titre, c'est chez Actes Sud, ça s'appelle La Dame numéro 13, c'est un truc extraordinaire, enfin, qui m'a beaucoup travaillé. Ça parle des mots et de la poésie. Alors, c'est un petit peu...
J'ai jamais vu quelqu'un vendre un livre comme ça.
Non, c'est une histoire de sorcière en plus. C'est des dames, il y a 13 dames et 13 muses qui, à travers les temps, ont été à côté des poètes. Et surtout des Shakespeare, des Dante et compagnie, et les ont incités à faire de la poésie, parce qu'elles en avaient besoin, en fait, cette poésie. Parce que les mots ont du pouvoir. Les mots peuvent tuer. Et ces femmes savent s'en servir pour tuer, pour faire du mal. Voilà. Et donc, tout le roman se fait à partir de ça. C'est très latino, hein. Il est cubain, l'auteur. Il vit à Madrid. C'est bête, j'aurais dû l'emmener. Mais je ne suis pas très bonne... Il faut que ce soit dans ma librairie que j'ai le livre et que je dis ça, c'est super. Voilà. Sinon, j'ai lu beaucoup de poésie cet été. Mohamed Oumnane, par exemple, qui est un poéte marocain, qui est édité à La Différence. Un livre de Mourad Djebel aussi, qui sort à La Différence, Les cinq nuits de Scheherazade. Je ne suis pas sûre du titre encore. C'est vraiment terrifiant. Mais c'est une belle écriture. C'est vraiment une belle écriture.
Savoir aussi que Sylvie a un très beau fond africain dans sa librairie.
Ah je suis liée à l'Afrique. Pour moi, l'Afrique est miroir beaucoup. La colonisation qui se passe encore en Afrique est très miroir de ce qui se passe ici. La colonisation, c'est partout. Sauf qu'en Afrique, elle a toujours été très avancée par rapport à nous. Donc, mais ce qui se passe en Afrique sur les livres, par exemple, c'est exactement ce qui est en train de se passer ici. C'est-à-dire que c'est encore la Gardère et Sellière qui ont le monopole des livres en Afrique. Hein, je dis tout de suite. Donc il suffit d'aller voir en Afrique ce qui se passe, les libraires, les éditeurs, comment ils ne peuvent pas émerger parce qu'on leur prend la place, pour voir ce qui est en train de se passer ici. Voilà, c'est Aimé Césaire qui disait que la colonisation africaine, en gros, hein, il n'a peut-être pas dit comme ça, était un brouillon de la colonisation en Occident.
Voilà, Sylvie, on approche du terme de cette émission. Alors on va.
Tu m'as même pas dérangé.
On va quand même donner l'adresse de ta librairie, puisque quand même, c'est un espace que, enfin, en tout cas moi que j'ai beaucoup fréquenté. Et effectivement, ça ressemble à ce que tu en dis. Je me souviens plus de l'adresse.
Alors c'est à Saint-Denis.
Oui.
Dans le 93, en Seine-Saint-Denis.
Métro Saint-Denis-Basilique.
Ouais, et c'est 22 rue Jean Jaurès. Voilà.
Et ceux qui veulent. Entre le Carrefour et le Virgin.
Voilà, c'est ça, bientôt le Virgin. Non, on a l'Humanité juste à côté. Mais ceux qui écoutent et qui ne sont pas très loin, le 13, on fait un petit pot à la librairie, ceux qui veulent partager un petit pot, pour, voilà, juste pour picoler un coup. C'était tout.
Et surtout, n'allez jamais chez Virgin.
Oh ben, il faut peut-être y aller, sauf qu'il ne faut pas foutre des bombes, en tout cas, parce que moi, j'habite quasiment au-dessus, enfin, du prochain Virgin, donc je voudrais qu'on pense on réfléchisse à d'autres actions que des bombes.
Voilà, ben, merci beaucoup Sylvie, merci beaucoup Fred pour ce courageux reportage. Money, money, make people happy. Money, money, make people happy. Money, money, make people happy.
n'y a pas de délire, il n'y a pas la volonté de se payer une star, quitte à perdre de l'argent. Donc tout ça, c'est des affaires, c'est des affaires très saines.
Voilà, c'est sûr, c'est nous qui avons le plus beau générique de toute l'antenne Fréquence Paris Pluriel. Alors aujourd'hui, autour des micros, autour des boutons, on avait Juliette d'en bas qui est encore allée manifester samedi. On avait Juliette d'en haut qui découvrait l'antenne ce soir avec nous. On avait Fred qui a donc eu le courage et l'audace d'aller rencontrer Raphaël Sorin et qui revient quand il veut. On avait Alexandrine qui avait les doigts sur sa bière. On avait Jérémy qui avait les doigts sur les boutons. On avait Cédric qui était dubitatif devant les doigts de Cédric sur les boutons. Et puis on avait Guillaume qui s'était assuré les services de Karl Marx et Friedrich Engels. On avait également Sylvie Labat qui est une libraire, comment pourrait-on dire, imprécise. Voilà, merci. On se retrouve nous la semaine prochaine, même endroit, même heure, de 19h à 20h30 sur Fréquence Paris Pluriel. Et on vous abandonne dans les bras d'Écho du Capricorne.